Sixième rencontre. Dans un des districts de l'Anatolie vit une grande tribu de nomades connue sous le nom de Hanis. Elle est composée de 30 000 familles qui sont toutes riches et qui habitent un pays magnifique. Chacun de ces chefs consacre sa vie à quelque objet favori. L'un aime les beaux vêtements, un autre préfère les femmes et un troisième est passionné pour les chiens de chasse ou les faucons. Leur chef, Hassan Pacha, aimait les chevaux par-dessus tout. Quand il entendait parler d'un beau cheval, il n'épargnait ni argent ni peine pour se le procurer. Un jour, Hassan Pacha vint dans ses écuries, et après avoir examiné plusieurs de ses chevaux, il dit à son vizir « Certainement aucun roi dans les 5 parties du monde ne peut se vanter d'avoir une écurie comme celle-ci. » Le vizir répliqua « Aucun roi, il est vrai, n'a d'écurie comme celle-ci. Mais Kourloglou, un cheval à Chamlibil du nom de Kirat, et Kaïvan lui-même, celui qui gouverne les 7 cieux, ne possède pas son pareil. Oh, mon vizir, je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour acquérir ce joyau. Pacha, ce n'est pas chose facile. Kourloglou ne manque pas d'argent et il n'y a aucune possibilité de lui prendre son cheval de force. » Vizir, à l'homme qui m'amènera ce cheval, je donnerai la moitié de mon pouvoir. S'il dit « ce n'est pas assez », je lui donnerai la moitié de mes richesses. Et si cela même ne le contente pas, j'ai 7 filles, il aura la liberté de choisir la plus belle pour sa femme. Va et fais proclamer un son de trompe dans la direction des 4 vents à tous les camps de notre tribu, l'ordre suivant. Qu'il soit beille ou mendiant, vieux ou jeune, il sera mon gendre, celui qui m'amènera Kirat. » Il y avait dans la tribu de Hanis un certain marmiton nommé Hamza, dont la tête et les sourcils étaient chauves et qui étaient marqués de petites vérolles. Cet homme, ayant entendu la proclamation, accourut auprès du vizir nu-pied et à peine vêtu. « Que proclame-t-on ainsi, vizir ? » ?»«
Qu'est-ce que cela te fait à toi, vilaine tête chauve ?»«
Non, je demande seulement de quoi s'agit-il. »
Le vizir le mit au fait et ajouta « L'homme qui réussira sera riche. »«
Auquel-je besoin d'argent ?» dit Hamza. « 12 livres d'écorce de melon d'eau que l'on me donne à manger chaque jour dans les cuisines suffisent à mon appétit. »
Le pacha promet de partager son pouvoir et ses richesses et de donner l'une de ses 7 filles pour femme à celui qui lui amènera Kirat.
Aussitôt Hamza dressa les oreilles. Vizir, j'ai vu les 7 filles du pacha, mais s'il consentait à me donner la plus jeune,
celui qui amènera le cheval aura le droit de choisir.
Hamza se frappa la poitrine avec ses 2 mains et dit « Regarde-moi, regarde-moi, je suis l'homme qui choisira. »
« En vérité, dis-moi comment, par exemple. »
« Le pacha aura Kirat, mais il faut que tu me conduises d'abord en sa présence. »
Le vizir pensa « Depuis tant de jours que nous faisons publier cette proclamation, il ne s'est encore trouvé personne qui voulût en profiter. » Voici le premier et le dernier.
Oh, il faut le faire voir au pacha.
Hamza fut introduit devant le pacha.
Est-ce toi, pauvre tête fêlée, qui a promis de m'amener Kirat ?
Moi-même, j'ai... Mais que me donneras-tu pour cela, pacha ?
Je te donnerai la moitié de mes richesses.
J'ai pas besoin de richesses.
Je te donnerai la moitié de mon pouvoir.
Je n'ai pas besoin de ton pouvoir, qu'en ferai-je ?
Et tu choisiras celle de mes filles que tu voudras.
Pacha, je puis croire à tes paroles.
Mais que puis-je faire de plus pour te convaincre ?
Jure, en baisant le Coran, que dans le cas où tu violerais ta parole, tu divorceras avec chacune de tes 7 femmes.
Le pacha en fit le serment. Hamza lui dit, «
Je suis depuis longtemps amoureux de la plus jeune de tes filles. Si je perds la vie dans cette expédition, je n'en aurai nul regret. Si au contraire, je ramène le cheval, j'aurai ta fille. » Le pacha dit, « Tu l'auras. » Et il baisa le Coran.
Hamza partit en hâte pour Chamlibil, où l'arrivée d'un pauvre diable comme lui fut à peine remarquée. Après un mois de séjour dans ce lieu, il pensa dans son cœur, « Tâchons de pêcher des liens à peine avec l'hameçon de l'amitié. Je trouverai peut-être ainsi moyen de m'introduire dans l'écurie. »
Il entra alors dans la cour de l'écurie avec circonspection et à pas lents. Après avoir déchiré sa chemise sur sa poitrine, il ramassa un tas de fumier et, se jetant dessus, il se mit à pleurer et à gémir à haute voix. Les larmes coulaient de ses yeux comme la pluie d'un nuage. Dalim Meder, écuyer de Kourouglou, passait justement de ce côté. Il vit un malheureux, tout nu et en larmes, assis sur ce tas de fumier. Son cœur fut ému de pitié. Tout le monde sait que les fous sont très portés à la pitié. « Pourquoi cries-tu ainsi, tête chauve ?» Hamza répondit, « Puissais-je devenir ton esclave? Je suis orphelin et étranger. Grâce à la laideur de mon front chauve, personne ne veut me prendre à son service. Je désirais pourtant trouver un maître qui pût me donner un morceau de pain. » Dali Berter pensa, tout le monde vit du pain de Kouroglou. Je prendrai cet homme à l'écurie et je le nourrirai. Pour commencer, il leva ses manches jusqu'au coude et remplissant un vase d'eau chaude, il lava la tête d'Hamza et l'ayant nettoyé entièrement, il lui donna ses vieux habits pour se vêtir. Hamza le chauve montra tant de zèle et d'habileté dans son service que la raison de délimiter lui échappait d'étonnement. Un des deux meilleurs chevaux de cette écurie était Kirat, qui était attaché par une jambe à une chaîne dont Kouroglou portait toujours la clé dans sa poche. L'autre, monté habituellement par Aïzarz, se nommait Dourat. Ce cheval aussi était attaché séparément et la clé de son cadenas était dans la poche de Deli Mekter. Toutes les circonstances furent bientôt connues de Hamza qui commença à désespérer de pouvoir jamais s'emparer de Kirat. Kouroglou vint un jour à l'écurie et trouva Deli Mekter endormi. Il regarda et vit un misérable en guenilles et à tête pelée qui étriait Kirat avec une brosse et un morceau de drap. Kouroglou et Hamza ne s'étaient jamais vus auparavant. Kirat était tendu comme un arc sous la pression de la puissante main de Hamza et sa robe était toute luisante par le fait de son excellent pansement. Kouroglou trembla de toutes ses jambes et pensa dans son cœur, l'homme sous le bras duquel Kirat s'est plié ainsi ne peut être un homme ordinaire. Il cria, chien pelé, tu vas emporter la peau du cheval, est-ce là la manière de l'étrier? Hamza prit un gros marteau de fer dans une niche et le levant sur Kouroglou, il cria, que viens-tu faire dans cette écurie? Va-t'en, vagabond! Car il lui avait été enjoint par Deli Mekter de ne permettre à personne d'entrer dans l'écurie. Kouroglou dit, fou, mais comment oses-tu lever ta main sur moi? Deli Mekter fut tiré de son sommeil par ce mot. Il se releva et salua son maître. « Quel est cet homme que tu as engagé à mon service? Puissais-je devenir ta victime? Des milliers de gens vivent de ton pain. Cette tête chauve est très habile et très adroite et peut aussi bien que tant d'autres profiter de tes largesses. Je ne refuse mon pain à personne. qu'il en mange autant qu'il voudra. Mais à juger de ses jambes et de toute son allure, je n'attends rien de bon de lui. Il a l'air de valeur de chevaux. Oh non, Seigneur, s'il était de fer, on ne pourrait faire plus de 5 aiguilles de ce pauvre diable. »
Hamza comprit alors que c'était le court Roglou. Il jeta son marteau à terre, et dans sa terreur, il courut se cacher sous le bas d'une mule.
Kouroglou, avant de quitter l'écurie, dit à Deli Meter, « Attache toujours un œil vigilant sur mon cheval, ne donne ta confiance à personne. »
Il ne poussa pas plus loin cette enquête. Plus Hamza restait attaché à l'écurie, plus il reconnaissait l'impossibilité de voler Kirat. Il dit donc dans son cœur, « Si ce n'est Kirat, ce sera au moins Durat. Le premier est père du second et sa mère était une jument arabe. Hassan Pacha ne les a jamais vus ni l'un ni l'autre. Il me croira, il me donnera sa fille. Et s'il n'arrive jamais à connaître la vérité, il ne me l'ôtera pas après que je l'aurai épousée. » Pendant la nuit, il apprêta la selle de Durat et tous les harnais qui en dépendaient. Dali Meter était ivre quand il revint du palais de Kouroglou, et voyant que Hamza pleurait amèrement, le visage appuyé sur ses mains, comme s'il était devenu veuf, il demanda « Qu'as-tu, Hamza ?»«
Seigneur, comment puis-je m'empêcher de pleurer ? Chaque nuit, tu vas avec Kouroglou boire du vin rouge et tu ne t'es jamais dit « Apportons-en quelques gouttes au pauvre orphelin. » Hélas, qu'est-ce que cela de vin ? C'est quoi du vin ? J'en ai jamais vu. Est-ce doux ou bien acide ?
Dali Meter se leva, prit le bidon de l'écurie et s'en fut au cellier de Kouroglou. Ayant rempli le bidon, il le rapporta, le mit devant Hamza et lui dit « Bois, tête chauve !»
Hamza remplit un vase jusqu'au bord et le tendit à Dali Meter. « Seigneur, est-ce le premier que je vois ? Comment que tu bois ?»
Dali Meter vida le vase jusqu'à la dernière goutte et dit « Voici la manière de boire !» Hamza remplit le vase à son tour, et l'ayant approché de ses lèvres, il donna une secoussie à droite, qu'il répandit tout le breuvage par-dessus son épaule, sans que Dali Meter s'en aperçût. De cette manière, il grisa si bien l'écuyer, que ce dernier, à la fin, tomba comme mort sur le plancher.
Hamza dit dans son cœur, « Il n'est pas convenable que je me monte sous ces haillons. »
Il ôta donc ses vieux habits, et ayant épousé Dali Meter, il changea de vêtements avec lui. Il trouva dans la poche de l'ivrogne la clé de la chaîne de Durat, conduisit le cheval hors de l'écurie, lui mit la selle sur le dos et s'en fut comme une étoile filante sur la route qui conduisait au camp de la tribu de Hannis. Kouroglou vint de bonne heure à l'écurie. Il n'avait point de ceinture car il sortait du harem. Il regarda et vit Kirat à sa place ordinaire, mais Durat avait disparu. Il devina tout de suite que la tête chauve l'avait volé. Il appela l'écuyer. Dali Meter se leva, se frotta les yeux et salua.
« Vilain, mais que signifie ces haillons que je vois sur toi ? Quel est ce tour de jongleur ?»
Le pauvre écuyer regardait ses habits et n'en pouvait croire ses yeux.
« Où est Durat ?
Seigneur, Hamza doit l'avoir emmené pour le promener ou le faire boire. »
« Ne te disais-je pas que c'était un voleur de chevaux ? Allez vite, que l'on selle Kirat !»
Kouroglou, armé, monta au sommet de la plus proche montagne sur laquelle ses sentinelles avancées étaient postées. Il examina le pays à l'aide d'un télescope, jusqu'à ce qu'il découvrit enfin le fuyard. Il le vit volant comme une flèche vers ses tentes. Il fut transporté de rage et rugit sur la montagne. « Misérable voleur, où fuis-tu? Mais où fuis-tu? Oh, tu peux aller aussi loin qu'Istanbul. Je t'y suivrai et je t'emparerai de toi. » La voix de Kouroglou, quand il était en colère, pouvait s'entendre à 1 000 lits de distance. Hamza la reconnut de loin et dit « Ô Père céleste, la vie est douce. Malheur, malheur à moi !» Il regarda devant lui et vit un village à peu de distance. Il dit dans son cœur « Oh, mais si je pouvais gagner ce village, mon âme pourrait encore être sauvée. » On voyait un profond ravin à l'entrée du village. « Qui peut dire, pensa Hamza, si avant que j'ai atteint ce village, Kouroglou n'aura pas brûlé mon père ?» Au fond du ravin se trouvait un moulin. Le meunier était absent et les roues restaient oisives. Hamza y courut, attacha la bride de Durat à la porte et entra dans le bâtiment désert. Là, il trouva la robe du meunier qu'il mit sur lui et il se frotta de farine de la tête aux pieds. On sait que lorsqu'un homme a fait une course rapide, ses yeux sont comme couverts d'un brouillard et que sa vue n'est pas très claire pendant quelque temps. Kouroglou ne reconnut pas Hamza et demanda « Meunier, où est le cavalier qui monte le cheval attaché à ta porte ?» « Oh, mon aga, le cavalier s'est précipité ici, saisi d'une telle crainte qu'il a couru se cacher sous la roue. » Kouroglou, tout tremblant de rage, descendit de cheval. « Tiens, mon cheval !» Il tira alors son poignard et courut à la recherche du voleur. Kirat avait cette qualité qu'il obéissait en toute chose à quiconque le recevait en dépôt de la main de Kouroglou. Il se laissa guider comme un enfant. Hamza, qui n'était pas sot, jeta la robe de meunier à bas et sauta sur Kirat. Il essaya d'un temps de galop et revint attendre tranquillement Kouroglou, qui, ayant tourné sans dessus-dessous tout ce qu'il y avait dans le moulin et n'y trouvant pas une âme, sortit et vit Durat à la porte. Au pied de Durat, la robe de meunier gisait par terre. Un peu plus loin, on voyait le victorieux Hamza, sous sa propre forme, monté sur Kirat. Il pensa dans son cœur, « J'ai fait là un marché capital. Plaise à Dieu que je ne le regrette pas quand il sera trop tard. » Et il s'écria, « Hamza Beg, quel est ton plaisir, noble guerrier ?» Nous devons revenir à la maison, mais nous irons pas, les chevaux sont fatigués. Où dis-tu que tu veux aller? À Chamlibil. Tu m'as offensé sans raison et je suis venu le chercher en personne. Ne plaisante pas davantage, Kouroglou. J'ai cherché le cheval dans le ciel, mais Dieu soit loué, je l'ai trouvé sur la terre. Tu as daigné me faire présent de Kirat de ta propre main. Puisses-tu jouir d'une vie et d'un bonheur sans fin, seulement me demande pas de te suivre. Mais je t'en conjure, je t'en prie, Hamza, je deviendrai ton esclave. Dis, sont-ce des richesses, un cheval, une femme que tu convoites? Guerrier, je te jure que tu auras toutes choses en abondance. Tu as le choix, tout ce que je possède t'appartient. Oh, je ne serai pas la dupe de ta ruse. Ce que je désire ne me t'appartient pas. Je te ferai connaître la vérité. J'aime la plus jeune des filles de Hassan Pacha, qui a promis de me la donner pour femme en échange de Kirat. Et depuis 6 mois et plus, je languissais de désespoir à Chamlibil. Maintenant, regarde, j'emmène Kirat et tu es toi-même la cause de mon bonheur. Puisses-tu vivre longtemps et longtemps? Oh, je m'en vais prendre femme.
Ah, mes abeilles, rends-moi seulement le cheval. Et je t'apporterai sur mon sabre la tête de Hassan Pacha. Ce serait une conduite basse de ma part. Quelle preuve de courage montrerais-je aux yeux de ma fiancée? Les prières et les promesses de Kangourlo ne servirent à rien. Hamza jura par la plus pure essence de Dieu qu'il ne rendrait pas le cheval. Kouroglou poussa un profond soupir du fond de sa poitrine et dit « Hamza Beg, permets-moi de chanter un air qui me vient à la mémoire. » Improvisation. Sans Kirat, la vie et le monde ne sont qu'un fardeau pour moi. Pauvre Kouroglou, maintenant que Kirat a quitté tes mains, tu dois te frapper la tête de douleur, Kouroglou. Hamza regardait Kouroglou pendant que celui-ci continuait de chanter ainsi. Tu as dû demander Kirat à Dieu même. La queue de Kirat était un bouquet de fleurs. Monter sur lui, mais c'était le monter le bonheur en personne. Oh, Kouroglou, que Dieu te le rende. Je me noie dans une mer profonde. Le chagrin de la perle de Kirat se pose comme une pierre sur mon âme et m'entraîne dans l'abîme. Je suis un paysan, un meunier. Loin de moi cette épée. Kouroglou, tu devras maintenant crier « Du blé, du blé !» C'est un cri par lequel les meuniers sur la plateforme de leur moulin font connaître qu'ils n'ont plus rien à moudre. Kouroglou avait l'air d'un fou. Il disait « Sans Kirat, je ne mérite pas d'être un guerrier !» Hamza lui dit « Oh, Kouroglou, tes paroles ont brûlé mon foie. Va à Chamlil et demeure en repos pendant 6 mois. À la fin de ce temps, tu peux prendre l'habit d'un ashfik, d'un chanteur improvisateur, et venir au camp de la tribu de Hanis. Je vais y mener Kirat et j'épouserai la fille du pacha. Mais je te jure que de même que j'ai reçu Kirat de tes propres mains, de même je te rendrai de mes propres mains les rênes et le cheval. » Comment puis-je savoir, ô Hamza Beg, si tu es sincère ou non dans tes paroles? Me jure par le plus pur être de Dieu. J'ai l'âme noble, et je te le répète encore, je conduirai moi-même Kirat par la bride, et je te le rendrai. Cela dit, il tourna la tête de Kirat et s'en fut vers le camp de la tribu de Hanis. Kouroglou contempla son bien-aimé cheval jusqu'à ce qu'il eût disparu dans l'éloignement. Triste et les yeux baissés, il retourna sur ses pas et monta sur Durat. Tous les bandits étaient sortis de Chamlibil afin de voir quelle figure ferait Hamza, ramené par Kouroglou. Mais quand ils virent leur chef seul et monté sur Durat, ils se dirent entre eux « Kouroglou aura été attrapé par cet adroit tête pelée. » Ils eurent peur de la colère de Kouroglou et se dispersèrent dans toutes les directions. Chacun d'eux, comme un rat, se cacha dans quelques trous. Aïvas seul fut assez hardi pour parler et dit « Agar, tu as fait un bon marché. » Durat pour Kirat, as-tu pris le voleur? Va-t'en, saute enfant! Le jeune homme effrayé s'éloigna. Kouroglou s'en fut dans le harem, et pendant les 6 mois qui suivirent, il ne bougea plus de la chambre de Nihara. Au bout de ce temps, il dit Nihara, Hamza m'a fait une promesse. Il faut que j'aille là-bas et que je meure ou que je revienne avec Kirat. » Il se leva, revêtit l'habit d'un ashfik et, après avoir pris congé de sa femme, il partit. En s'approchant du camp des Hanis, il se préparait à passer une large rivière
quand il remarqua sur le sable la trace des pieds d'un cheval qu'il avait franchi en un saut d'une rive à l'autre. Il dit dans son cœur, « Oh, mais nul cheval au monde, excepté mon Kirat, ne pourrait accomplir une chose semblable. Hamza a dû venir par ici avec lui. » Étant entré dans le camp, il mit un temps considérable à faire le tour des tentes nombreuses et des cordes tendues qui en marquaient les limites. Fidèle à son rôle, il chantait tout le temps de sa plus belle voix, charmante et égayant tout ce qu'il rencontrait, et toutes ses chansons étaient à l'éloge du cheval. Cette nouvelle parvint bientôt aux oreilles du pacha. Ce seigneur a été de mauvaise humeur parce que depuis le jour où Kirat lui avait été amené par Hamza, il n'avait pu encore monter ce cheval qui était attaché dans l'écurie et ne souffrait que personne s'approcha de lui si ce n'est Hamza Bey. Le pacha ordonna que Kouroglou fût amené en sa présence. Il lui fit un accueil gracieux et lui permit de s'asseoir dans sa tente. « On dit que tu es habile dans l'art de louer les chevaux. » Tu arrives justement dans un lieu où tu peux voir une écurie qui n'a pas sa pareille dans tout l'univers. » Kouroglou eut peur que Hamza Bey ne le trahît. Il regarda, et voyant que ce dernier était absent, il chanta l'éloge suivant. Improvisation. « Laissez-moi chanter l'éloge d'un cheval arabe. Sa crinière doit être comme si elle était de fil de soie. Ses pieds ne doivent pas être charnus. » Ils sont exactement entourés de peau. Ses sabots ont l'air d'avoir été tournés. Ses fers ne doivent pas peser plus d'un roca d'argent. Il doit être robuste et d'une taille moyenne. Son cou doit être long, mince et uni comme un ruban. Quand on le sort de l'écurie, il bondit et se joue de mille manières. « Bravo !» s'écria le pacha. « Je n'ai jamais entendu louer le cheval avec tant de méthode. » Le célèbre Kirat qu'Hamza Bey m'a amené possède toutes les qualités que tu as énumérées. Mais de quel usage est-il pour moi? Il est si méchant et si fou que je ne puis pas le monter. » Kouroglou dit, « Longue vie au pacha, un cheval fou est le meilleur à monter. » Pour quelle raison? Kouroglou chanta ainsi. Improvisation. Un noble cheval marche hardiment, comme s'il cherchait à renverser son cavalier. Il secoue ses oreilles et tire si fort les rênes que le cavalier doit le tenir ferme et ne donner aucun repos à ses mains. Le cheval d'un guerrier bélier doit être fou comme son maître. Le pacha appela ses serviteurs. Faites venir Hamza Bey devant moi. Je désire qu'il écoute ces belles louanges du cheval. Hamza Bey avait épousé la plus jeune fille du pacha. Il avait été élevé au rang de grand vizir. Il vint, vêtu d'un riche habit de fourrure. Son turban était du plus beau cachemire et il avait une suite de 300 hommes. Il entra. Et saluant à peine de la tête le pacha, il s'assit sans qu'on le lui dît et s'étendit sur son siège. Kouroglou fut grandement surpris de voir tant de splendeur et de gravité dans un homme qui 6 mois auparavant n'était qu'un marmiton. Il se leva humblement de sa place et fit un profond salut. Un frisson glacial courut sur toute sa peau, et en saluant, il plaça la main sur son cœur. Ce geste signifiait « Hamza Bey, sois miséricordieux et ne me trahis pas. » Hamza Bey, en réponse, plaça la main sur ses yeux, ce qui voulait dire « Ne crains rien et prends patience. » La conversation par signe est portée à une grande perfection en Perse. Je me rappelle qu'une fois, pendant ma visite à un certain Begelberg, on lui amena un coupable qui ne voulait pas avouer sa faute. Le Beglerbeg ordonna d'apporter les fouets et les felkakas. « Je jure que je suis innocent !» s'écria l'accusé, croisant sur sa poitrine ses deux poings fermés avec un seul doigt levé en avant. Les exécuteurs étaient prêts, regardant le Beglerbeg, qui de son côté fixait les yeux sur la poitrine de l'accusé. « Tu es coupable, drôle » s'écria-t-il. « Non, sur ta tête bienheureuse, je suis innocent !» répondit l'accusé, croisant ses poings comme auparavant, avec cette différence qu'il y avait deux doigts au lieu d'un projetés en avant. Ils continuèrent ainsi, l'accusé, après chaque menace du Beglerbeg, croisant ses mains sur sa poitrine, avec toujours plus de doigts levés. Enfin, quand après une nouvelle protestation, il eut mis ses mains sur sa poitrine avec tous les doigts étendus, le Beglerbeg dit « Allons, laissez-le aller. Mais peut-être est-il réellement innocent. Retourne à ta maison et fais ce que je n'entende pas de plainte contre toi. » Quand je quittais la maison du Beglerbeg, je remarquai que mes domestiques riaient et chuchotaient entre eux, et j'obtins d'eux l'explication suivante. L'accusé avait d'abord fait entendre au Beglerbeg qui lui donnerait un tument s'il voulait le renvoyer. Ensuite, il lui en avait promis deux, trois, et ainsi de suite, mais il n'obtint son pardon que lorsqu'il eut promis de payer 10 tumans. Note de M. Chodzko. Le pacha dit « Nul doute qu'Alchik ne soit lui-même un bon cavalier. » Il se tourna vers Kouroglou et dit « Oh, Chik, serais-tu dans le cas de monter mon cheval ?» Kouroglou se mit à pleurer et à se plaindre de ce qu'on voulait sans doute lui donner quelque cheval fou qui le tuerait et rendrait ses enfants orphelins. Le pacha dit « N'aie pas peur, tu auras 200 tourments de moi. Si le cheval te tuait, l'argent serait remis à ta veuve et à tes orphelins comme le prix de ton sang. » Si tu peux descendre vivant de dessus son dos, je te donnerai l'argent comme récompense. » Kouroglou dit, « Puisse le pacha nager dans le bonheur et puisse son règne être long. Je suis content. Si je meurs, puisses-tu vivre de longs jours, Seigneur. » Le pacha donna ordre au vizir d'aller chercher Kirat. Le rusé Hamza Beg, pourvu à tout, voyant que Kouroglou n'avait point d'armes avec lui, il réussit en scellant Kirat à cacher une massue sous les housses et suspendit un sabre au pommeau de la selle. Il le brida ensuite et lui noua la queue. 6 hommes suffisaient à peine pour conduire Kirat hors de l'écurie, tant il était devenu gras et sauvage après 6 mois de repos. L'écume jaillissait de ses naseaux. Kouroglou vit tout et chanta. Improvisation. « Oh, toi que j'ai eu pour la première fois entre mes mains dans le Turkestan, viens, Kirat, viens, bonheur de ma vie. Tu es tombé entre les mains d'un vilain. Allez, viens, Kirat, toi la plus chère de toutes les choses de ma vie. Viens. J'ai pour toi un mort fait avec 15 livres de fer. Quand tu es courroucé, tu ne touches pas à ta nourriture de 3 jours. Tu ne bronches pas dans une course de 40 000. Ô Kirat, toi la plus chère des choses de ma vie, viens. » Le pacha dit, « Oh, Chik, ma patience est épuisée. Je t'ordonne de monter ce cheval à l'instant même. » Kouroglou dit, « Oh, je suis sûr que le cheval me tuera. Béni soit le sel que tu m'as donné, soit le protecteur de mes pauvres orphelins. Tu peux te tranquilliser, il ne te tuera pas. Je te recommande à la protection des 4 premiers califes. » En disant ces mots, le pacha mit dans le sein de Kouroglou la bourse promise avec les 200 tourments. Ce dernier dit « Longue vie au pacha !» et il alla vers Kirat. Hamza Beg lui tendit les rênes de ses propres mains et lui dit tout bas « Guerrier, la parole d'un guerrier est une parole. La promesse que je t'ai faite il y a 6 mois est remplie. » Kouroglou lui dit à l'oreille « Pour cette conduite généreuse, je te jure, aussi longtemps que j'aurai un morceau de pain, je le partagerai avec toi. » Hamza Beg dit « Prends le sabre suspendu à la selle, attache-le à ta ceinture, tu trouveras aussi une massue sous les housses. » Kouroglou monta sur Kirat, ceignit le sabre et, tirant la massue, il la fit tourner au-dessus de sa tête. Hamza Beg recula comme s'il était effrayé et se cacha dans la foule. Quand Kouroglou sentit Kirat sous lui, il devint si joyeux qu'il perdit toute sa raison et sa présence d'esprit. Il faisait trotter le cheval dans toutes les directions. Oh, le pacha le rappela. « Oh, chic, donne-moi le cheval, il nous paraît très doux ce matin. Laisse-moi essayer de le monter. » Kouroglou dit dans son cœur, « Je te laisserai plutôt monter sur mon propre cou. » Et il ajouta tout haut, « Pacha, permets-moi de te chanter un air d'abord. Ensuite, je descendrai. » Improvisation. Ce cheval peut courir en un jour d'Ardibil à Kusham. Qu'importe le sultan, qu'importe tous les pachas à celui qui est monté sur ce cheval. Ce cheval ne s'arrête que tous les 30 fersacs. Ô toi, bonheur de ma vie, tu es encore à moi. Il a franchi une grande rivière. J'ai reconnu l'empreinte de ses pas. Oh, je baiserai chacun de tes sabots. Je baiserai tes 2 yeux brûlants. Je remercie Dieu de te revoir, ô mon Kirat. Bonheur de ma vie, tu es encore à moi. Le pacha dit, « Oh, chic, fais-le galoper encore une fois. » Je te regarde comme un habile cavalier. » Kouroglou passa 2 fois au galop près de l'endroit où était le pacha. « Bien, maintenant donne-le-moi, je veux l'essayer moi-même. »« Pacha, tu ne le monteras pas !» Le pacha se tourna vers Hamza Beg et dit « Mais ce fou ne veut pas me rendre le cheval. » Si c'était Kouroglou lui-même. Hamza Beg répondit, « Comment puis-je le dire? N'as-tu donc pas vu le bandit durant ton séjour à Chamlibil? Non, je ne l'ai pas vu. Mes yeux, aussi bien que mon esprit, ont été occupés tout le temps à trouver quelques moyens de dérober Kirat. Ce Kouroglou a plusieurs milliers de braves guerriers comme lui, qui pourraient jamais tous les connaître. » Le pacha, tournant son visage vers Kouroglou, dit « Allons, amène ici le cheval, je veux le monter maintenant. » Kouroglou dit « Santé au pacha, un air me vient dans la tête, écoute-moi. » Improvisation. Une course sur un cheval bai porte toujours bonheur. Le cœur du cavalier met en lui ses délices. Ses genoux sont noirs, son cou vous rappelle le cou du chameau Baguillard. Le cœur met en lui ses délices. Quand il marche, son pas est comme le pas du chameau cosaque. Quand il est en bon état, son dos doit être aussi large que sa poitrine, et la distance entre ses jambes de derrière est telle qu'un archer peut s'asseoir entre pour tendre son arc. Le cœur met ses délices en lui. » Le pacha dit « Oh, tu deviens trop familier, oh chic. Je t'ai déjà dit que nous en avions assez. Allez, descends. Je désire monter Kirat moi-même. » Kouroglou sourit avec mépris et dit « Pacha sans cervelle, je couvrirai ton turban de boue. Comment peux-tu penser à monter ce coursier? Il a plus d'esprit que toi. » Le pacha dit « Hamza Beg, dis-lui de descendre. » « Je lui ai dit, mais il refuse d'obéir. J'ai peur en vérité que cet homme ne soit Kouroglou. Pourquoi lui as-tu donné le cheval ? Le pacha dit, « Alors vite, descends aussi que tu sourds !» Kouroglou dit, « Pacha, je me rappelle un air, écoute-moi. » Improvisation. Le cheval est à moi. Je ferai couvrir son précieux dos de housse de soie. Je le ferai baigner dans toute une rivière de vin rouge. C'est l'élu de Kouroglou, l'élu entre 500 chevaux. Le cœur met en lui ses délices. Quand le chef des palefreniers de Libactère s'approche de lui, il se lève sur ses jambes de derrière et le palefrenier, pour le panser, est obligé de le frapper sur la bouche avec un bâton. « Alors, tu es Kouroglou ?» s'écria le pacha. « Oh, remercie Dieu ! Je t'ai cherché dans le ciel et je t'ai trouvé sur la terre. Je vais te faire mettre en pièces ici, de telle sorte qu'il ne reste pas de traces de toi sur la terre. » Ben, vous savez, voyant que la querelle s'échauffait et que les choses, selon toute apparence, deviendraient pires encore, se retira pour voir à quelque distance comment elle finirait. Le pacha cria, « Hamza Beg, viens là, voici Kouroglou !» Hamza Beg répliqua, « Oui, tu l'as dit, mais que puis-je faire contre lui ? Ne t'ai-je pas conseillé de ne pas lui mettre le cheval entre les mains ?» Le pacha fut épouvanté, mais il continua d'appeler Kouroglou, lui ordonnant de descendre. Kouroglou chanta ainsi. Improvisation. Hassan Pacha, ne te fie pas trop à ton pouvoir. J'ai plus d'un serviteur qui te vaut. Que te servira de gravir des montagnes et des rochers? Crois-moi, le pied de ton cheval ne passera jamais sur mes chemins. Aga, sultan, regardez le vaste désert. J'aurai vos corps enveloppés de la tête aux pieds dans la pourpre du sang. Je vous tuerai tous avant de revoir Ayaz. Mes serviteurs portent de lourds jésaïres. Longue arquebuse, appelée aussi Chamtal, elle porte à une grande distance. De lourds jésaïres sur leurs épaules. Montrez-moi le héros qui puisse tendre mon arc. Avancez, héroïque bélier. Voyons si vous pouvez frapper un bouclier avec vos têtes. Je puis mâcher le fer et le cracher ensuite vers le ciel. Je suis le seigneur de Chamlibil et de ses montagnes couvertes sur leurs crêtes de neige aux mille couleurs. Je compte 1000 hommes de chaque tribu sous ma bannière. Je puis seul monter 100 000 ingénieuses devises. Le pacha commanda alors à ses hommes de le saisir. Kouroglou, sur cela, s'écria « Oh Ali !» Et tirant l'épée du fourreau, il bondit sur les nomades comme un loup affamé sur un troupeau. Des monceaux de cadavres s'élevèrent autour de lui, et le pacha prit la fuite. Kouroglou dit dans son cœur « Mzameg m'a rendu de tels services qu'il faut que je lui montre ma gratitude d'une manière sensible. Je tuerai son beau-père afin qu'il règne désormais sur la tribu de Hanis. » Alors, donnant de l'éperon à Kirat, il atteignit le pacha, et d'un coup de son sabre, il lui aplatit le crâne comme la tête d'un pavot. Hamza Beg vit le sort de son maître, et ôtant son turban, il se jeta sous les pieds de Kirat, ce qui signifiait « Nous nous rendons, nous sommes tes prisonniers. » Kouroglou dit « Hamza Beg, si j'ai tué le pacha, c'était seulement pour faire de toi son successeur. Si dans ton cœur tu as quelque autre désir, dis-le-moi que je puisse l'accomplir. » Kouroglou, ayant établi solidement l'autorité de son ami sur les tribus de Hanis, le quitta pour retourner à Chamlibil. En passant à travers les camps les plus éloignés, il jeta un regard dans l'intérieur de quelques tentes. Les eunuques en sortirent aussitôt et lui reprochèrent la hardiesse avec laquelle il se permettait d'examiner l'intérieur des tentes qui formaient le harem de Hassan Pacha. Kouroglou demanda si la femme de Hamza Beg était là. « Elle y est, » fut la réponse. « Combien de filles avait Hassan Pacha ?»« 7. L'une d'elles est mariée à Hamza, les 6 autres ne sont pas mariées. »« Amenez-les ici et faites-les placer en rang. Je désire les voir. » Quand ses ordres eurent été exécutés, il dit « Celle-là seule peut partir. C'est la femme d'Hamza Beg et elle est pour moi une fille, une sœur. » Il fit choix de la plus jolie des 7 sœurs et la plaça derrière lui sur sa selle. Il dit à l'eunuque, « Si Hamza Beg demande ce qu'est devenue la fille du pacha, tu lui diras que Kouroglou l'a convenée à Chardibil pour son ancien maître d'Ali Metter. » Il s'en alla ainsi de bourgade en bourgade jusqu'à ce qu'il fût arrivé chez lui. Tous les bandits vinrent à sa rencontre. Kouroglou dit à Aïzès de faire venir d'Ali Mechter devant lui et d'envoyer la fille du pacha dans son propre harem. Aussitôt que d'Ali Mechter parut, Kouroglou dit « Écoute-moi, écuyer, j'ai été irrité contre toi à cause de Kirat. Faisons la paix. J'ai amené la fille de Hassan Pacha pour toi. » Alors, se tournant vers Aïvaz, il dit « Qu'aucune dépense ne soit épargnée. Il faut que tu prépares des noces splendides, car c'est la fille d'un homme d'un rang élevé et elle doit être honorée. » Les cérémonies et les illuminations durèrent pendant 7 jours à Chamlibil. À la fin du 7e jour, la nouvelle femme de Delimiter fut conduite dans sa demeure.